Radio Kapi.
Un opérateur économique de Goma dénonce l'occupation et la destruction par le FRDC de sa ferme de Kingi, située dans les territoires des Masisi. Kassole Chamoki, qui demande l'implication des autorités, indique que cette situation a causé la faillite de son entreprise. Les travaux de la conférence des gouverneurs se poursuivent ce jeudi à Kalemi. Les gouverneurs des provinces ont présenté leurs doléances au chef de l'État, entre autres, la dotation conséquente et régulière en crédit d'investissement et les paiements réguliers de la rétrocession. La MONUSCO va totaliser 25 ans de présence en République démocratique du Congo ce vendredi 29 novembre 2024. Quel bilan dresser de ces années consacrées à la protection des civils, à la stabilisation et au soutien à la paix? Jean-Toby Okala, responsable des communications stratégiques et de l'information publique de la MONUSCO Béni, est l'invité de ce journal. Bonjour à tous. Ce journal part du Nord Kivu, où l'opérateur économique Kassole Chamoki dénonce l'occupation et la destruction par le FRDC de sa ferme de Kingi, située près de Sakié dans le territoire de Masisi. La destruction qu'il qualifie de méchante a impacté négativement même ses activités à Goma. Il parle de recettes qui sont générées par ces terres. Avec un chiffre d'affaires annuel de 500 000 dollars avant la guerre, aujourd'hui sa société, dit-il, a perdu environ 90% de ces chiffres. Autre conséquence de cette guerre, une dizaine d'employés mis au chômage forcé. Au micro de Denis Lukeso, Chamoki Kassole explique comment la guerre pèse sur ses activités et sur l'économie de la province. Il demande au gouvernement d'en finir. Écoutez.
Nos militaires de FARDC avec les Wazalendo occupent ma concession. Nos travailleurs ont fui et ils ont tout laissé. Et comme il y avait beaucoup de nourriture sur mes terres, les militaires ont vu que c'est là qu'ils devraient rester. Donc ils ont tout mangé. Ils ont même cassé mes dépôts et mes bureaux qui sont là-bas avec des coups de balle. Ils ont tout volé. Ils ont mangé tout ce qu'il y avait. J'avais beaucoup d'arbres fruitiers. Et quand il n'y avait plus de fruits, ils ont coupé tous les arbres pour faire des makala. J'ai zéro ressource. C'est pas seulement là-bas. Même nos entreprises ici, localement. Mon entreprise, je l'ai créée il y a 47 ans. Aujourd'hui, je ne sais plus rien faire. Mes recettes ont été divisées par 10. Avant, je variais autour de 500 000. Maintenant, c'est 50 000 par an. Quand il y a la guerre, il n'y a plus rien qui va marcher. Même si on nous donnait l'argent, qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent? Rien du tout. Si l'État vient me demander des taxes ou des impôts, je ne peux pas payer. Qu'on vienne fermer, c'est tout. Je n'ai plus d'argent. Je suis en faillite. C'est désolant. Il n'y a plus moyen de continuer. Même si on me donnait l'argent, je ne peux plus rien faire avec. La solution, c'est de terminer la guerre. Tant qu'il y aura la guerre, il n'y a rien qui peut marcher.
Restons au Nord Kivu. La situation s'est relativement rétablie dans la matinée ce jeudi dans les camps de déplacés de Rusayu 1 après un crépitement des balles entendu tôt ce matin et qui a sémé la panique. C'est dans les villages Murambi, groupement Rusayu, à une dizaine de kilomètres de Goma, en territoire de Nyiragongo. D'après diverses sources, tout est parti de l'interpellation des deux hommes en tenue militaire présentés comme des présumés rebelles du M23. Ces personnes auraient été interpellées par les Wazalendo dans ces sites de déplacés avant l'intervention des FRDC, indique la société civile. Cependant, la cause des tirs n'est pas encore élucidée, alors que les présumés infiltrés du M23 sont entre les mains de l'armée, affirme la société civile. Nous avons essayé sans succès de joindre les porte-parole militaires pour faire la lumière sur cet incident. La sécurisation des déplacés internes de la RDC au cœur des discussions hier entre le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale Christophe Mboso et les représentants spéciaux adjoints du secrétaire général de l'ONU en RDC. Au nom du président Vital Kamerhe en mission en Égypte, Christophe Mboso, accompagné du président de la Commission des droits de l'homme de la Chambre basse du Parlement et de quelques élus de l'Ituri et du Nord Kivu, sont passés en revue avec les coordonnateurs humanitaires Bruno Lemarquis sur la situation du droit des personnes déplacées. Au cours des échanges auxquels ont pris part les coordonnateurs humanitaires de l'ONU, a souligné que la situation des déplacements en RDC est une deuxième plus grande crise en Afrique, avant de rassurer de l'accompagnement des experts de l'ONU à l'Assemblée nationale dans l'élaboration des textes pour la protection des déplacés internes. Bruno Lemarquis est au micro de Michel Kifindangoy.
C'est la première fois qu'une rapporteuse spéciale visite la RDC depuis 2009. C'est une mission qui est pour une semaine en RDC, à Kinshasa et ensuite dans les provinces de l'Est. C'est une mission qui s'intéresse aux questions de protection de personnes déplacées. C'est la deuxième plus grande crise de déplacement de l'Afrique, avec de nombreux problèmes de protection. Ça regarde aussi aux législations en République démocratique du Congo par rapport aux personnes déplacées internes, notamment par rapport à ce qu'on appelle la domestication de la convention de Kampala. La mission va également s'intéresser à ce qu'on appelle les solutions durables, c'est-à-dire quand la paix revient, quand les conditions sont réunies, comment est-ce qu'on appuie les personnes déplacées à ce qu'elles retrouvent une vie normale, à ce qu'elles retournent dans leur village ou bien à ce qu'elles s'installent où elles veulent s'installer. Nous espérons que cette mission va aider la République démocratique du Congo à avancer sur certains de ces sujets. Toute cette expertise est à la disposition de la République démocratique du Congo, y compris de l'Assemblée nationale, pour avancer sur certains textes de loi, certaines politiques, certaines stratégies.
Notez que ces échanges entre le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale et la délégation du rapporteur spécial des Nations Unies est une suite logique de l'entretien que le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, avait eu au mois de juillet avec la représentante du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en RDC, Angèle Dikongwe Atangana. Les gouverneurs des provinces qui participent à la conférence à Kalemie ont présenté leurs doléances au chef de l'État. Ils l'ont fait savoir dans un mémorandum lui adressé hier à l'ouverture de ses assises. Dans ces documents, ils réclament notamment la dotation conséquente et régulière en crédit d'investissement et les paiements réguliers de la rétrocession. Paulin Munanga.
Le gouverneur des provinces de Lomami a, au nom du collectif des gouverneurs des provinces, porté à la connaissance du chef de l'État les défis majeurs relatifs à la gouvernance des provinces. D'après lui, ces défis ont persisté aux efforts du gouvernement de la République au lendemain de la précédente conférence des gouverneurs des provinces. Iron Van Kalombo, gouverneur de la province de Lomami, énumère quelques doléances.
Le collectif de gouverneurs de provinces relève le non-paiement des frais d'installation des gouverneurs et vice-gouverneurs de provinces, le non-paiement de la rétrocession due aux institutions provinciales permettant de payer les émoluments des membres du gouvernement, mais également ceux des honorables députés provinciaux.
En réaction, le président de la République dit avoir bien compris les desiderata des gouverneurs et il rassure que des instructions seront données aux acteurs concernés pour y apporter des réponses. Signalons par ailleurs que dans son discours, la gouverneure du Lualaba annonce que tous les gouverneurs soutiennent la démarche du chef de l'État sur les changements de la Constitution. Elle l'a fait savoir dans une motion de soutien de tous les gouverneurs au chef de l'État. Fifi Masuka Saini.
S'agissant de la question des changements de la Constitution, le collectif de gouverneurs de province soutient à l'unanimité cette démarche.
Kalemie, Paul Munanga, Radio Okapi.
En Ituri, un incendie a réduit en cendres l'orphelinat La Compassion dans le quartier Lengabo mercredi. Cet établissement des gardes d'enfants est l'un des plus grands de la ville. Les 73 enfants qui y sont hébergés ont passé une première nuit sous les toits des voisins de bonne volonté dans le quartier Lengabo. Les responsables de l'orphelinat tirent la sonnette d'alarme pour solliciter de l'aide. Sadiki Aboubakar s'est rendu sur place. Voici son reportage.
Il s'agit d'un beau et gigantesque bâtiment qui est parti en fumée. Le toit, les murs, les berceaux, les matelas, les vêtements des enfants, tous les meubles, rien n'a survécu au feu dont l'origine reste inconnue. L'hypothèse d'une source énergétique est moins probable, affirme Gaël Sivirois, le responsable de l'orphelinat. Mais aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée, rassure-t-il.
Nous avons 73 enfants, seulement 12 restent à la maison et qui ont été sauvés par la population. D'autres enfants, les restes, étaient encore à l'école. C'était ça notre chance. Le maire de la ville nous a facilement aidé avec l'extincteur de feu. Nous avons aussi recours aux amis de la Monisco qui sont arrivés aussi juste après. Eux avec les camions, l'extincteur, ça nous a aidé. S'ils n'ont pas été là, ça allait être terrible.
Du réfectoire au dortoir, il ne reste que quelques vestiges. Ce matin, les 73 enfants ont trouvé refuge dans le bâtiment d'un voisin du quartier. Gaël Sivirois lance un cri d'alarme.
Dieu a fait grâce, il y a un voisin à nous qui nous a donné un toit. Là où les enfants ont passé d'abord la nuit aujourd'hui. Et maintenant, comme c'est déjà le matin, on verra d'autres dispositions qu'on aura à prendre pour que les enfants se sentent encore mieux qu'hier.
Il ajoute que les enfants manquent de tout et que toute aide extérieure leur sera la bienvenue. Bounia, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Il a encore plu ce jeudi à Kinshasa et comme si souvent, la dame pluie a entraîné des dommages. C'est notamment le cas dans la commune de Matete. Plusieurs familles sont sinistrées au quartier Vitamine, Maziba à Debonhomme et Lounyonzo suite aux inondations. Elles sont une centaine avec ces deux pluies successives, affirment les bourgmestres de cette commune. Elles ont perdu beaucoup de biens. À Maloukou, outre les inondations, des routes d'importance capitale comme celle menant au port d'Ingafula également celles des Maloukou sont très endommagées. Son bourgmestre lance un SOS pour une intervention rapide des autorités provinciales et nationales afin d'éviter leur coupure totale. L'appel du bourgmestre Alexis Mampa Mundoni au micro de Babel Mpongo Massimango.
Certains endroits étaient sous l'eau, causant des dégâts matériels, mais jusque-là, aucune perte en vie humaine n'est signalée. Comme l'eau a débordé les lits de la rivière au petit matin, alors que les gens étaient déjà réveillé. Et nous avons eu la vie sauve grâce aux travaux de curage de justesse amorcés par l'honorable Justin Luemba en 2023. Cependant, il faut dire que la gestion des déchets reste un problème préoccupant dans la ville. Les ordures s'accumulent dans les quartiers, exacerbant les risques de salubrité et d'obstruction des caniveaux, ce qui pourrait aggraver les effets des pluies. Et jusque-là, nous attendons la réaction des autorités de la ville pour des mesures préventives aux inondations. Au niveau de la société civile, nous proposons la mise en place d'un système de gestion des déchets par la création de décharges publiques et bacs de récupération des déchets.
Là, il s'agissait du son en rapport avec les inondations qui ont également causé des dégâts à Matadi. Nous allons retrouver l'élément sonore sur les inondations à Kinshasa dans nos prochaines séances ou sessions d'actualité. Au Congo central, la pluie qui s'est abattue hier mercredi à ce jeudi sur la ville de Boma a causé des dégâts matériels et inondé des maisons, laissant de nombreuses familles sans abri. Le président de la société civile de cette entité qui l'affirme indique que ces inondations ont même empêché le passage de la cité vers les centres-villes au niveau de la commune de Kalamu. Selon Titi Mpungu, les eaux qui inondent la ville proviennent de la rivière Kalamu qui, chaque saison pluvieuse, déborde de son lit par le fait que des travaux de son curage ne s'effectuent presque pas. Ainsi, le président de la société civile de la ville de Boma appelle les autorités à mettre en place non seulement les mesures préventives des inondations, mais également d'appliquer une politique de gestion des déchets. Au Kasaï oriental, affaire démolition des maisons en Mbujimayi, la ministre des Affaires sociales et humanitaires et le premier vice-président du Sénat, José Kalala, séjourne depuis ce mercredi en Mbujimayi. Nathalie Aziza Munama est venue récolter les statistiques des victimes des démolitions des maisons des avenues Dodoma et Zahir au quartier de la Plaine dans la commune de Bipemba auprès des commissions instituées au début de ces mois. Tous deux ont été accueillis à l'aéroport de Bipemba par une foule nombreuse. Les papiers d'Esther Ndalafina rendus par Blaise Ndonga Lamayanda.
La présence en Mbujimayi de la ministre des Affaires sociales et humanitaires ainsi que du premier vice-président du Sénat constitue déjà un ouf de soulagement pour les victimes des démolitions des maisons sur les avenues de Doma et Zahir dans la commune de Bipemba. Cela explique la présence de foules nombreuses qui viennent à l'accueil de ces autorités et envahissent l'aéroport de Mbujimayi. Aussitôt arrivé l'après-midi de ce mercredi en Mbujimayi, la ministre des Affaires sociales et humanitaires, Nathalie Aziza Munana, a été conduite jusqu'à l'hôtel Gloria. Avant de quitter Mbujimayi, il y a 3 semaines, la ministre avait institué des commissions pouvant identifier les vraies victimes de ces opérations de démolition. Mardi dernier, le premier vice-président du Sénat a foulé ses pieds à Mbujimayi. À partir de l'aéroport, José Kalala a été conduit sur les sites où les maisons ont été démolies. Très rassurant, il a réconforté ses familles en affirmant que leurs problèmes et leurs lamentations sont déjà arrivés auprès du président de la République. Il a également souhaité que l'appropriation des parcelles des habitants qui dorment encore à la Belle Étoile soit faite selon les normes administratives et juridiques.
Le centre de traitement des choléra de Malemwe dans la zone de santé de Lukafu, dans le territoire de Kasenga, province du Haut-Katanga, notifie de moins en moins des cas de choléra. Le constat est du ministre provincial de santé dans le Haut-Katanga qui s'y est rendu. D'après Joseph Sambi Boulanda, les efforts sont fournis en collaboration avec certains partenaires dont le MSF pour lutter contre cette épidémie qui, depuis le mois d'octobre dernier, a déjà touché des centaines de personnes et causé la mort de nombreuses autres. On est écoute Joseph Sambibulanda, ministre provincial de santé dans le Haut-Katanga, dans ses propos recueillis par Jean Gandou.
Cette aire de santé a notifié jusqu'à ce jour 409 cas, 13 décès, avec une létalité autour de 3%. Monsieur le gouverneur était passé pour émettre un lot important d'intrants, bien avant des interventions étaient données selon l'évolution de la situation. Donc nous sommes passés avec le chef de division de la santé pour voir ce qui est fait en termes d'intervention et leur impact sur l'évolution de l'épidémie. À ce jour, il y a 14 malades. Il y a eu des points de faiblesse qui vont faire l'objet d'un renforcement, surtout en termes de communication avec les relais communautaires, qu'on continue la chloration d'eau dans les aires de santé les plus touchées. Le partenaire MSF est au centre de traitement avec nos agents de la zone de santé et vont bénéficier de l'expertise de MSF dans la gestion des épidémies, notamment le choléra.
Actualité internationale.
Le président sud-soudanais Salva Kiir a confirmé son engagement à accélérer et conclure les négociations de paix de Tumaini. Le chef d'État a également encouragé les partis à se concentrer sur les élections de décembre 2026 lors de l'ouverture du 8e forum annuel des gouverneurs à Djouba.
L'invité.
Ce vendredi 29 novembre 2024, la MONUSCO va totaliser 25 ans de présence en République démocratique du Congo, un quart de siècle consacré à la protection des civils, à la stabilisation et au soutien à la paix. Mais dans quel contexte la MONUSCO est-elle arrivée en RDC et quel bilan dresse-t-elle de ses années d'engagement? Pour en parler, Jean-Toby Okala, responsable des communications stratégiques et de l'information publique de la MONUSCO à Beni, répond aux questions de Martial Papi Moukeba.
Jean-Toby Okala, bonjour.
Bonjour.
Dans quel contexte la MONUSCO était-elle arrivée en RDC il y a 25 ans et quels étaient ses objectifs initiaux?
Peut-être que ceux qui ont 20 ans, 25 ans et même 30 ans ne s'en souviennent plus. Et il y a 25 ans, le pays était divisé en plusieurs parties. On va pas refaire l'histoire ici. Le Congo avait perdu son intégrité territoriale. Il était découpé en morceaux. Et donc, il n'y avait plus cette unité-là, n'est-ce pas, que les gens avaient connue. Et donc, c'est dans ce cadre que le gouvernement de la République de l'époque avait fait appel à l'Organisation mondiale, l'ONU, pour ne pas la citer, puisque la RDC en est un des membres importants, pour dire, voilà, je suis agressé, je suis en train de perdre des pans entiers de mon territoire, venez à mon secours. Et c'est ce qui est à l'origine de cette mission qui va fêter cette semaine, ses 25 ans. Et donc, quand elle arrive, il y a plusieurs objectifs. L'objectif le plus immédiat, c'était d'obtenir le cessez-le-feu, que les belligérants fassent taire les armes. Et la MONUSCO l'a très bien fait. Ensuite, il fallait s'interposer entre les différents belligérants, engager des dialogues et pacifier le pays. C'est ainsi que la MONUSCO va s'installer dans notre région du Grand Nord, Kivu.
Quel est le bilan que la MONUSCO dresse de ses 25 années de présence en RDC, particulièrement en matière de protection des civils et de consolidation de la paix?
Nous ne pouvons être juges et partis. Je laisse à l'histoire, n'est-ce pas, le soin de répondre à cette question. Mais je voudrais juste faire remarquer que en 25 ans, sur les 26 provinces que compte la République démocratique du Congo, la MONUSCO n'est plus présente que dans deux provinces aujourd'hui. Le Nord Kivu et la province de l'Ituri. Je ne parle pas de Kinshasa, qui est le quartier général de la mission. Ce qui signifie quand même que la cause de la paix a plutôt avancer. Bien sûr, il reste encore des défis. On parle des ADF, il y a des centaines de groupes armés, notamment dans la partie est du pays, mais nous y travaillons avec nos partenaires, avec le gouvernement. Nous avons un mandat que nous exécutons chaque année. On nous demande d'appuyer les FARDC, les forces de défense et de sécurité, d'appuyer l'État, et c'est ce que nous faisons. La police notamment, les composantes civiles, la société civile, tout ce qui est ONG, droits de l'homme, même vous, les médias, vous en faites partie. La MONUSCO est présente. La cause de la paix a avancé, mais il reste encore des défis, on pourra en parler tout à l'heure si vous voulez.
Exactement. Comment la MONUSCO a-t-elle adapté ses stratégies face aux défis sécuritaires persistants dans des zones comme Beni et l'Ituri.
Depuis 25 ans, la MONUSCO a été obligée de s'adapter à l'ère du temps. Vous savez, les groupes armés, que ce soit des groupes étrangers ou locaux, beaucoup sont mobiles. Ils vont d'un endroit à un autre. Et nous aussi, avec nos partenaires des FARDC, on a été obligés de nous adapter à leur modus operandi. Et c'est pourquoi au sein de la MONUSCO, non seulement on a créé une brigade d'intervention qu'on appelle la FIB, mais surtout nous avons mis en place ce qu'on appelle des bases militaires temporaires. Lorsque nous recevons des alertes que tel groupe armé est allé semer la zizanie, si vous me passez l'expression, à tel endroit, nous aussi nous envoyons nos troupes là-bas. Et là, ça peut durer une semaine ou deux semaines. Une opération ponctuelle. On appelle ça base militaire temporaire. Mais à côté de cela, nous avons aussi des bases militaires permanentes pour être au plus près des populations et traquer aux côtés des FARDC ces rebelles. Donc, la mission a évolué au fil du temps en fonction du modus operandi de ces groupes armés. Nous organisons énormément de patrouilles. Il y a des patrouilles de longue portée qui peuvent durer une semaine, qui peuvent durer 3-4 jours, plusieurs jours. Et il y a à côté de cela des bases temporaires. On va quelque part parce qu'il y a les ADF qui sont là, parce qu'il y a tel groupe armé qui est actif dans cette localité. On peut rester là pendant une semaine, pendant 10 jours, pendant 2 semaines.
Pourtant, la MONUSCO est souvent critiquée pour ce qu'on appelle inefficacité.
J'aimerais que l'on m'explique ce qu'on entend par inefficacité de la MONUSCO. Quand on est à Beni au centre-ville, quand on est à Goma, quand on est à Bukavu, à Bunia, à Kinshasa, on voit des voitures blanches monter et descendre, ça dit que nous sommes ici en tourisme. Non, non. Là, c'est le personnel d'appoint que vous voyez. La MONUSCO est sur le terrain. Elle assure la protection physique directe à plus de 400 000 personnes déplacées, rien que dans la province de l'Ituri. Oui, il y a encore des massacres qui continuent, mais qui peut nier aujourd'hui quand même que la paix n'a pas avancé? Aujourd'hui, les points chauds d'insécurité, ça reste l'Ituri et encore pas dans tout l'Ituri. Et puis, au Nord Kivu. Mais ailleurs, voyez quand même ce que l'État a fait avec l'appui de la MONUSCO. Donc,
dernière question, quels sont les grands défis à venir pour la MONUSCO dans les prochaines années et quelles priorités sont mises en avant pour assurer une transition réussie lorsque la mission prendra fin?
Je parlerai des deux défis. Le premier, c'est celui de réussir la transition. Le deuxième défi, qui est tout aussi important que le premier, c'est comment pérenniser les acquis de la présence de la MONUSCO.
Jean-Toby Okala, merci.
Merci à vous.
Et c'est la fin de cette session des nouvelles sur Radio Kapi. Billy Landry Betou a assuré sa mise en onde. Martin Sebujangwe et Élisée Tchiko Tachivueta l'ont respectivement supervisé et coordonné. À la présentation, Patience Ngalula Mbombo. Merci à vous tous de l'avoir suivi.